Alors bonsoir, merci d'être aussi nombreux à cette projection, donc qui inaugure la saison des rendez-vous réguliers de la Cinémathèque du documentaire à la BPI en ce qui concerne les rencontres d'images documentaires, la revue. Très opportunément, vous avez le programme de cette séance et la prochaine. C'est une séance un petit peu particulière parce que nous avons fait venir un invité un peu particulier. On va vous en dire deux mots dans un instant. Et j'ai parlé de ce rendez-vous régulier et je vous rappelle également qu'à l'entrée, vous trouvez une brochure qui vous informe sur toutes les séances en cours autour du cycle Alain Cavalier-Ross-McElhouy Autoportrait, donc qui vous est proposé jusqu'à fin mars. Voilà. Je propose à Catherine de vous dire deux mots sur cette séance en particulier.
Donc merci d'être venu ce soir pour cette projection et cette rencontre avec Laszlo Nemes. Je vais vous dire deux mots avant de passer la parole à Laszlo. D'abord sur le film que vous allez voir ce soir. Donc il s'agit du premier volet du dernier film réalisé par Claude Lanzmann. C'est un film qu'il a réalisé en 2018 et donc Claude Lanzmann a disparu le 5 juillet 2018. Et le film a été montré sur Arte il y a exactement un an, c'est-à-dire en janvier. Et donc, le film comporte quatre volets, quatre témoignages de femmes rescapées des camps. Donc, je vais vous dire leurs noms. Il y a Ruth Elias, Paula Biren, Ada Lichtman et Anna Marton. Et ce soir, vous ne verrez que le premier volet, c'est-à-dire le témoignage de Ruth Elias sous le titre « Le serment d'Hippocrate ». Alors, le film était trop long pour qu'on puisse montrer les quatre volets, mais je pense que le premier est un des plus poignants. Donc il s'agit du cinquième film réalisé par Claude Lanzmann à partir de cet énorme matériau qu'il avait rassemblé pour Shoah. Le premier film, en 1997, qui sous le titre « Un vivant qui passe », était le témoignage du délégué de la Croix-Rouge internationale, Maurice Rossel. Ensuite, en 2001, Claude Lanzmann a donc repris le témoignage de Yehuda Lerner dans le film sur Sobibor. En 2010, le rapport Karski autour de l'affaire Karski, enfin le témoignage de Yann Karski. Et en 2013, il avait réalisé « Le dernier des injustes », le témoignage de Benjamin Murmelstein, qui avait été, qui a une histoire très particulière autour de Theresienstadt. Si vous voulez en savoir plus, Charlotte Garçon a écrit dans le numéro 80 de la revue Images Documentaires un très bel article sur « Le dernier des injustes ». Et elle a écrit aussi un bel article sur « Les quatre sœurs », dans l'avant-dernier numéro, je crois, le 90-91, qui est paru en mars dernier. Donc voilà, avant de vous montrer ce film, j'ai demandé à Laszlo Nemes de venir faire un peu un hommage à Claude Lanzmann. Il n'y a pas de raison particulière pour qu'on fasse cet hommage aujourd'hui, à cette date-là. Mais pourquoi j'ai demandé à Laszlo de venir? Parce que vous savez sans doute qu'il a réalisé un film très remarquable qui s'appelle Le Fils de Saul, qui a été un premier film, un premier long métrage, qui a été sélectionné à Cannes en 2015 en sélection officielle, ce qui pour un premier film est quand même très exceptionnel. Et non seulement il a été sélectionné, mais il a eu le Grand Prix, et l'année suivante il a eu l'Oscar du film étranger. Il y a un lien invisible entre Le Fils de Saul et Shoah, pas si invisible que ça d'ailleurs. Claude Lanzmann, en fait, vous le savez sans doute, s'était opposé très violemment, de façon très virulente, à ce qu'on mette en scène l'univers concentrationnaire. Donc on pouvait s'attendre à ce que son jugement, qu'il porte un jugement sur Le Fils de Saul, et en réalité, il a été très touché par le film. Je pense que Laszlo vous racontera les circonstances comment il a vu le film, comment il l'a découvert et ce qu'il a pu en dire. Et donc, enfin, ce film est exceptionnel aussi à ce titre-là, c'est-à-dire que Claude Lanzmann, qui normalement aurait pu le critiquer, a été très touché. Donc c'est pas le premier film de Laszlo, il avait fait plusieurs courts-métrages avant Le Fils de Saul, et j'ai eu la chance d'en voir au moins deux. Un qui s'appelle With a Little Patience en 2017, et un autre, The Counterpart, oh pardon, 2007, et en 2008, The Counterpart, et il en a fait d'autres que j'ai pas vu. Donc en fait, il faut quand même rappeler que Le Fils de Saul est un film sur la vie des Sonderkommando, c'est-à-dire la vie de ceux qui ont été obligés de conduire les leurs à la mort dans les camps de concentration et qui étaient promis à la mort également. Donc il y a eu, je pense, deux sources principales pour ce film. Un ouvrage qui s'appelle « Des voix sous la cendre » qui est paru en 2001 en français, et qui est l'édition de trois manuscrits qui ont été enterrés par les Sonderkommando à Auschwitz-Birkenau. Et l'autre source, je pense que c'est justement Shoah. Donc je crois que tu l'as vu assez tard. J'ai lu quelque part que tu avais vu le film quand tu avais déjà 25 ans, mais que ça avait été une expérience fondatrice. Et donc voilà, maintenant je te laisse la parole. Est-ce que Claude Lanzmann a été pour toi un maître? Et puis si vous voulez lui poser des questions, sentez-vous libre de prendre la parole. On a récupéré un micro pour la salle. Oui, juste avant de te passer la parole, je voudrais juste dédier cette soirée à Marceline Loridan-Evens, qui nous a quittés en septembre dernier, et voilà, qui était une grande figure aussi.
Merci. Alors le mot hommage présente des difficultés pour moi ce soir de... Oui, Alain.
Voilà, si on veut faire un dialogue, il faut que j'ai un micro aussi.
Ah oui, d'accord. J'ai demandé à ce que ça soit un peu plus dialogué parce que j'aurais quelques mal à faire un monologue sur Claude Lanzmann. Mais je le fais pour lui et je le fais pour Shoah, puisque Shoah a été pour nous, en faisant le film, notre film de fiction, était, la référence absolue en termes de d'approche. Comment fallait-il qu'on vienne présenter à quelqu'un d'aujourd'hui une histoire qui se passe au milieu de la machine d'extermination de Birkenau. Je l'ai vu effectivement assez tard, je ne sais pas exactement quand. Ce que je peux dire, c'est que j'ai grandi en France, mais Shoah n'était pas vraiment sorti en Hongrie. On a essayé de retrouver des traces. Si Shoah avait été projeté en Hongrie, d'une manière significative, on n'a pas vraiment trouvé de traces. Peut-être dans les années 90, quelques projections. En tout cas, ça veut dire quelque chose d'assez important sur le fait qu'au milieu de la... De l'Europe centrale, au milieu de la destruction d'une des plus grandes communautés juives d'Europe centrale, d'Europe, la connaissance de l'Holocauste est assez fragmentaire, pour ne pas utiliser d'autres mots. Et puis, quand je fais quelques allers-retours comme ça dans le temps, quand on a fait le film, je sais que mes amis collaborateurs, dont Clara Royer qui est là, étaient extrêmement
préoccupé par la réaction qu'on aurait en France avec ce film. Je n'étais pas vraiment préoccupé. Je me souviens de conversations extrêmement intenses avec Mathieu, qui était le monteur du film, et Clara, que ce film allait poser des problèmes peut-être pour le, disons, pour la, notamment la France, qui est un pays où on réfléchit beaucoup sur la représentation. Et je n'étais pas du tout, je n'avais pas peur, parce que je pensais que, enfin, j'étais convaincu que notre approche, notamment la stratégie de représentation, était la réponse simple, finalement, à toute question sur la représentation dans les camps de concentration. C'est vrai que, après, on a eu plein de problèmes en France, notamment, aussi en Allemagne, mais en France, où on aime beaucoup réfléchir sur la représentation. Et je dois vous dire que j'étais pas préoccupé, parce que j'étais guidé par cette force qui me dépassait, et probablement sans être versé dans le mysticisme, il y a quand même une, comme vous disiez, un lien invisible, comme une transmission, une tradition, je ne veux pas utiliser le mot éthique, mais quand même, d'une certaine manière, la seule possibilité. Et que je n'avais pas de... je sais qu'on en a parlé, que comment Lanzmann allait réagir, comme le gardien d'un certain temple, mais j'avais pas de problème. Donc du coup... puisque je savais que ne pas montrer l'intégralité d'écran, mais faire le portrait d'un homme, d'une personne, était la clé de ce voyage, le voyage qui était aussi celui du spectateur, puisque le spectateur doit imaginer ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a autour, ce qu'il y a dans la vision, mais dans la perspective, plutôt dans le cœur de ce moment de l'histoire. Et ça, quand le film a été projeté la première fois à Cannes, les gens de Cannes ont fait venir Claude Lanzmann, parce que eux, ils avaient très peur ce qu'allait dire Claude Lanzmann. Et je sais que j'étais pas à cette projection là, mais je sais que Geza, qui a joué le personnage principal du film, était allé et il a vu, il était à côté de Lanzmann, et je crois qu'il lui a serré la main à la fin, d'une manière plus qu'amicale, disons, en communiquant une sorte de parenté invisible ou non dite. Et ça, c'est quand j'ai vu Claude Lanzmann après à Cannes, c'était presque sans le connaître, je le connaissais, j'avais cette impression d'être parfaitement à l'aise, même si j'étais impressionné par la personne et par le, évidemment, tout ce qu'on sait de lui en termes de parcours et d'importance, je ressentais là tout de suite un lien très affectueux. Et c'est probablement dû au fait que dans Shoah, les visages sont des visages qui racontent l'histoire. Des visages certes de survivants, mais qui évoquent les morts. Et puisque Shoah, pour moi, était un film sur les morts, sur ceux qui n'ont pas survécu, on laisse finalement au spectateur et au cœur du spectateur de trouver les réponses. Peut-être pas les réponses, c'est pas un bon mot, mais de trouver la un lien avec toutes ces personnes qui ont été tuées. Et je crois que c'est ça qui faisait, qui rendait ce lien immédiat possible. C'est l'imagination. On était dans l'après-guerre, je crois, dans un paradigme de la survie. Et ça a été particulièrement communiqué par le cinéma, notamment encore de nos jours. Et le cinéma, notamment de fiction, extrêmement, extrêmement porté, focalisé sur la survie. On oublie les morts. Les morts sont ceux qui racontent, qui rendent la survie intéressante, importante, centrale. Pour nous, malheureusement, c'est la mauvaise nouvelle, la mort était centrale, puisqu'il n'y a pas d'autre paradigme, à mon avis, sur la Shoah possible que l'histoire des morts. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on ressent, je crois, en regardant les quatre femmes et Shoah. C'est que on évoque les morts et je pensais à ça quand je regardais Ruth Elias. C'est toutes les personnes dont elle parle sont des personnes, ou presque toutes les personnes à mon avis sont des personnes qui ont été tuées pendant la guerre, pendant sa survie à elle. Et ça m'amène à... Est-ce que je fais un hommage à Lanzmann, là? Je ne sais pas. Mais peut-être que ce n'est pas assez porté sur Claude Lanzmann. Il serait peut-être un peu furieux, mais peut-être pas. En tout cas, on a projeté le film... on a commencé à projeter le film à des... d'une manière internationale, notamment à Toronto. Je sais que j'ai eu des survivants dans la salle qui m'ont posé des questions, qui étaient un peu énervés, des personnes un peu énervées, choquées par le film, je crois. Et à la fin du film, c'était des Hongrois en plus, m'ont posé des questions. Pourquoi avoir choisi une histoire de fiction et pas une histoire vraie pour raconter le fils de Saul? Et en fait, je ne savais pas quoi répondre vraiment à cette question et j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire. Ce que ça voulait dire dans mon esprit, ne pas raconter l'histoire d'une histoire de vraie. Je me suis dit, quelques semaines après, que les histoires vraies sont des histoires qui ont été transmises. Puisqu'il y a eu des gens pour les raconter, quelles sont les histoires donc qui n'ont pas été transmises? C'est des histoires, et je suppose qu'il y en a eu beaucoup plus que les histoires vraies, c'est des histoires qui n'ont pas pu être racontées, puisque les gens qui les portaient sont morts. Et c'est ce que je ressens en regardant Ruth Elias, c'est que finalement, elle survit presque par hasard. Bien sûr, on peut ressentir quelque chose de différent comme une sorte de protection magique, mais je pense qu'elle a été que toutes les morts qui sont autour d'elle dans cette histoire, la honte, et ça on le ressent, et il n'y a pas d'autre possibilité. Et c'est pour ça que je pense que c'est comme ça que Claude Lanzmann, on ressent sa présence dans ce film. Il fait partie de ce voyage. Il fait résonner quelque part ces morts qui réapparaissent à travers cette histoire de survie. Donc finalement, on se retrouve sur ce visage et il n'y a rien d'autre. Si la caméra avait pu filmer continuellement la personne, elle l'aurait fait. Il y a quelques changements d'axe, probablement pour changer les bobines, et quelques regards de Claude Lanzmann qui nous regarde de temps en temps, qui regarde dans l'objectif, qui nous regarde pour voir si on est encore là, si on a bien compris ce que c'était. Est-ce qu'on a bien compris l'importance, la signification de ce qui est en train d'être raconté? Et je crois que c'est uniquement de cette façon que je peux approcher mon travail, ma responsabilité par rapport à ce que j'ai fait, à ma rencontre avec Claude Lanzmann, qui est, même si c'était pas une personne que je connaissais très bien, j'avais l'impression d'être très proche de lui, et d'autant plus que dans une de ses dernières interviews, il a parlé de moi comme si j'étais la continuation, sans utiliser d'autres mots, la continuation de son travail et de son esprit. Et ça, c'était quelque chose qui était très touchant. Et sans faire trop long, parce que finalement je vais être trop long, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai retrouvé quand le film a été nominé aux Oscars, Claude Lanzmann était aussi dans un film, un documentaire court qui était nominé aux Oscars, qui était sur lui, malheureusement qui n'a pas gagné. D'ailleurs, l'Académie n'a jamais donné d'Oscar à Claude Lanzmann, ce qui est incroyable, sachant tous les Oscars qu'il donne à n'importe qui, comme moi. Non, mais il y a pire que moi. Et je crois qu'il aurait mérité, je crois qu'il aurait beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Et il a su que j'allais voir Steven Spielberg, c'était avant la cérémonie. Il lui a transmis un message, je ne me souviens plus exactement lequel, peut-être que c'était écrit, que j'ai apporté à Steven Spielberg. Et je sais qu'il y a eu des problèmes avec la liste de Schindler entre Lanzmann et Spielberg. Et le sens du message, c'est que ce n'était pas une nouveauté, les deux le savaient, mais c'est une réaffirmation que finalement, Lanzmann n'en voulait pas vraiment très profondément à Steven Spielberg, et que finalement, il l'aimait bien. Et donc Spielberg était très touché, il a écrit, il a pris un papier et il lui a écrit un petit mot, et c'est moi qui ai remis ce... Donc j'étais le messager entre ces deux personnes, que voilà, c'était assez assez étrange comme épisode, d'autant plus que je voyais à quel point Spielberg était pensait énormément de bien de Claude Lanzmann, et que qui reconnaissait absolument son autorité, et que probablement il n'aurait pas fait certaines choses, je pense, dans la liste de Schindler s'il avait eu le temps de réfléchir. Mais nous, en faisant Le Fils de Saul, c'est sûr que c'était pas, on n'a pas fait le film contre la liste de Schindler. On a fait plutôt contre des films comme La vie est belle et d'autres, le film hongrois qui s'appelle Être sans destin, je ne sais plus comment il s'appelle. Cette espèce d'utiliser la Shoah et la force de l'Holocauste pour des raisons, pour des fins de narration, de dramaturgie, et de se complaire dans des belles images, de belles imageries. Sur l'Holocauste, c'est absolument le refus de ça qui nous a guidés aussi avec le chef opérateur, et avec, je crois, déjà dans l'écriture. Voilà, donc je crois que j'ai déjà trop parlé, et ça se trouve c'était même pas très intéressant, donc je vous laisse regarder ce film.
Pas trop parlé, merci.
Non,
merci beaucoup.
C'est vrai. Je connais mes limites.
Bon.
Voilà, merci beaucoup.